BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous, il est 9h30 pile, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique du jour, avec une question ce matin: l'économie française résiste-t-elle vraiment? La Banque de France vient de relever sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre, bonne nouvelle, sauf que dans le même temps, eh bien plus de 36 000 procédures collectives ont été enregistrées sur les 6 premiers mois de l'année, plus de 106 000 emplois menacés. Alors, résilience française ou trompe-l'œil statistique? On va voir ce qu'en pensent mes experts ce matin. On parlera aussi des retraites. Le comité de suivi recommande de freiner les pensions, de préserver la réforme de 2023 et d'instaurer une règle d'or. Alors, faut-il faire contribuer les retraités pour sauver le système, ou est-ce une ligne rouge sociale parfaitement intouchable? Ce sera le deuxième débat ce matin. Et puis, troisième débat, Marine Le Pen. À Bruxelles comme à Berlin, son retour dans la course présidentielle inquiète plus qu'une candidature Bardella. Le vrai sujet, est-ce l'Europe, la dette française ou le risque d'un choc sur les marchés? On va voir ce qu'en pensent les experts du jour. Et puis, pour cette dernière émission de la saison, eh bien, on fera une sorte de bilan et perspective: guerre commerciale, tensions géopolitiques, blocage politique en France et dérapage budgétaire. Quel événement économique a marqué les experts cette année? Et puis surtout, que faut-il surveiller pour les mois à venir? Voilà pour le thème du jour. Il est 9h passé de 31 minutes. C'est les experts. C'est parti. Et pour ce dernier numéro de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Vronsky, président Vronsky, sur le plateau. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Face à vous, Erwan Lenoir. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Fondateur de AKA Stratégie et directeur de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ryan Nézard. Bonjour. Bonjour Ryan, professeur à Sciences Po. Je suis ravi de vous avoir tous les trois pour cette dernière émission de l'année. On va parler de la situation économique française avec ces signaux un peu contradictoires et brouillés qu'on reçoit en ce moment. On a d'un côté la Banque de France qui vient de nous annoncer une bonne nouvelle, une augmentation de la prévision de croissance pour le deuxième trimestre. On n'a pas encore les chiffres définitifs, ce sera début août. Mais la Banque de France qui revoit de 0 à plus 0,2 la croissance au deuxième trimestre. Sauf que dans le même temps, eh ben voilà, on voit qu'on a enregistré plus de 36 000 défaillances d'entreprises sur les 6 premiers mois de l'année. C'est un niveau très élevé. Alors, question toute simple pour commencer. Allez, Erwan, je commence avec vous. Est-ce que la France se porte bien ou mal? Est-ce qu'elle est résiliente? On en parle beaucoup avec les chefs d'entreprise, avec Laurent Vronsky, ces entreprises qui traversent les crises, cette permacrise depuis des années. Et en même temps, on voit ces défaillances qui augmentent.
Oui, moi j'allais juste dire, où en sommes-nous? On présente comme une bonne nouvelle le fait qu'on va avoir à 0,2% de croissance.
Eh oui.
Non, mais c'est dramatique.
On en est là.
En réalité, la situation économique française est catastrophique. On a des atouts, on a tout ce qu'il faut pour rebondir très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, sur les 10 dernières années, on a 1% de croissance en moyenne en France et 2% aux États-Unis.
C'est la croissance potentielle du pays aujourd'hui.
Donc on est au maximum de ce qu'on peut faire à 1%, ce qui est quand même très très faible, ce qui ne nous permet pas d'affronter les défis à venir, ce qui ne nous permet pas de préparer l'économie et la société de demain. Donc globalement, on est quand même dans une situation qui est très compliquée. Je voulais juste dire une dernière chose, c'est l'OCDE a publié récemment un rapport sur l'économie française.
La semaine dernière.
Et il y avait un élément intéressant qui disait que l'incertitude politique est l'un des principaux défis pour la France et que ça nous coûte entre 0,2 et 0,4 points de PIB. Or, je pense que l'incertitude politique va ne faire que croître dans les semaines, voire les mois qui viennent, et que donc la situation compliquée pour un certain nombre d'entreprises est assez loin, à mon avis, de se dégager.
Bon, Ryan, votre avis?
Peut-être si on regarde la publication de la Banque de France sur la situation en juin, il y a à la fois de bonnes nouvelles, mais certes conjoncturelles, et qui surtout ne sont pas forcément durables et sont en fait assez fragiles. Si on regarde dans le détail, ce que dit la Banque de France, c'est que sur le mois de juin, les difficultés d'approvisionnement ont plutôt eu tendance à reculer, ce qui est lié au semblant d'accord qui a été trouvé sur la guerre.
La situation au Moyen-Orient, mais qui redémarre de plus belle
J'y arrive.
Quelques jours.
Mais en tout cas, sur le mois de juin, la Banque de France dit quand même que sur certains secteurs de l'industrie, ces difficultés d'approvisionnement se sont poursuivies. Elle cite les exemples de l'électronique ou de l'aéronautique. Donc, ça veut dire que quand même, il y a encore des secteurs, au mois de juin, il y avait encore des secteurs qui étaient en difficulté, même si elle relève aussi, et ça, je pense que les chefs d'entreprise l'ont perçu au mois de juin, la hausse des matières premières au mois de juin avait tendance quand même à s'atténuer. Alors, ça a repris depuis quelques jours, mais on va y revenir. Mais donc, au total, l'activité dans l'industrie a plutôt eu tendance à accélérer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et c'était tiré plutôt par les secteurs technologiques, par la défense et même un peu l'automobile avec un effet de rattrapage. Ça, c'est pour l'industrie. Si on regarde les grands indicateurs que généralement on utilise pour apprécier la solidité de cette reprise, le taux d'utilisation des capacités de production, il est évidemment très loin de 100%.
Alors, on est à
78%.
78.
Mais il augmente légèrement.
Ce qui est une moyenne plutôt basse, disons. Il faut un peu expliquer. Alors, ce taux, c'est un indicateur qui est extrêmement important pour la santé économique du pays, hein, le taux d'utilisation des capacités de production. Alors, sous les 80%, c'est quand même un peu faiblard. C'est pas catastrophique non plus, une bonne moyenne.
On était proche des 75, en fait, il y a un an et demi, deux ans.
Donc, ça augmente.
Donc, ce qui montre que... Mais voyez, c'est qu'un frémissement, c'est pas formidable et c'est très fragile, j'y arrive à la fin. Mais donc, ça montre que quand même, au mois de juin, les choses allaient plutôt dans le bon sens, très modestement, comme le dit Erwan Noir, évidemment. Autre indicateur intéressant, les stocks. Et là, on voit aussi que les stocks avaient tendance à baisser au mois de juin, ce qui veut dire que, finalement, dans l'ensemble, l'offre, enfin la fonction d'offre dans l'ensemble de l'économie avait tendance plutôt à réussir à écouler sa production, qu'elle soit écoulée nationalement ou à l'international. Si on regarde sur les services marchands, moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette étude de la Banque de France, c'est qu'elle a noté que certains secteurs avaient redémarré, notamment le BTP, et ce qui est assez paradoxal.
Et quand le bâtiment va ?
Alors oui, mais parce qu'il y a eu la canicule, en tout cas la canicule de juin, puisqu'on va avoir des canicules chaque mois maintenant, en tout cas l'été. Mais la canicule de juin n'a pas conduit le BTP à réduire son volume d'activité, ça c'est intéressant. La Banque de France montre que les entreprises se sont adaptées en termes d'horaires, d'organisation de travail, et aussi qu'il y a eu un effet, ça va vous faire sourire, demande d'installation de clim, qui a fourni de l'activité au BTP. Plutôt positif, mais ça montre que le débat public parfois est très éloigné de la réalité du terrain économique. Et ensuite, si on regarde des secteurs comme la restauration et l'hébergement, il y a des effets un peu contradictoires, c'est-à-dire que dans la restauration, la canicule a été plutôt négative en termes d'activité, dans l'hébergement, plutôt positive. Donc, au global, la canicule n'a pas affecté, sur le mois de juin, l'activité économique. Je termine Pardon, j'ai été un petit peu dans le détail, mais simplement pour regarder, parce que...
Non, mais ça pose l'environnement, effectivement, de manière claire et détaillée.
Mais pour terminer, effectivement, ce 0,2% de prévision...
Ça reste une prévision.
Pour le deuxième trimestre, c'est faible. C'est plus que la prévision antérieure qui était à zéro. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une croissance mirobolante en 2026. Certainement pas. Et de mon point de vue, ça reste très, très fragile, très faible. Et d'ailleurs, quand vous interrogez... C'est une forme de transition. Les chefs d'entreprise, en tout cas quand la Banque de France le fait, elle a un panel de plus de 8000 chefs d'entreprise, ils répondent, ou elles répondent, qu'en fait, l'incertitude géopolitique reste le facteur principal d'inquiétude. Donc, on est encore dans une économie française qui est inquiète.
L'incertitude qui est repartie de plus belle, évidemment, depuis quelques jours avec la crise au Moyen-Orient qui repart. On a un chef d'entreprise sur le plateau, on a le meilleur d'entre eux. Qu'est-ce qu'il en dit, Laurent Broussy, situation ? L'industrie va mieux, dit Ryan Nézard. Est-ce que vous le sentez ?
Bah écoutez, il faudrait que la Banque de France publie des études plus souvent, parce que c'est bon pour le moral. Alors moi, je veux pas être un trouble-fête, mais moi, je le vois pas du tout sur le terrain. Mais alors, pas du tout, du tout. J'en veux pour preuve un indicateur qui est modeste, mais à mon avis significatif, c'est le crédit inter-entreprise.
Oui.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le crédit inter-entreprise, c'est globalement, vous avez un fournisseur qui facture à son client, et puis il met du temps à le payer. Donc là, le crédit inter-entreprise est en très forte hausse. On voit que ça devient difficile de se faire payer, que les trésoreries sont extrêmement tendues. Les banques ne se précipitent pas au guichet pour financer le BFR, c'est-à-dire pour financer les
besoin stocks, au fonds de roulement des entreprises,
voilà,
la trésorerie.
Pour financer les stocks, pour financer le crédit client, etc. Moi, je ne connais pas d'entreprise où les clients font la queue devant la porte pour avoir des produits. Maintenant, il faut savoir aussi que l'industrie, je veux dire, aujourd'hui, représente à peine 11% de la richesse nationale. Donc, ceux qui ont traversé les crises ont développé des anticorps, comme nous. Donc, s'il y a un petit frémissement, je veux dire que c'est facile d'utiliser les capacités de production. Moi, je ne le vois pas parce qu'on travaille avec beaucoup de sous-traitants en France. Et un indicateur qui est très important, c'est que quand ces sociétés vont bien, généralement, vous avez des délais à rallonge. Il faut plutôt se bagarrer pour pousser vos cahiers des charges pour qu'on les honore. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous pouvez aller dans n'importe quel secteur industriel que nous connaissons bien. Je veux dire, les gens ont de la capacité. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Maintenant, sur le côté incertitude, oui, moi je le vois parce qu'il y a, très peu d'entreprises aujourd'hui qui veulent se commettre avec des investissements de moyen et de long terme.
Ouais.
Donc on paye les fins de mois.
L'incertitude que soulignait Erwan Le Dran, comment voulez-vous faire ?
L'intérim marche plutôt pas mal, c'est pas non plus un très bon signe, hein. Ça veut dire que c'est un signe vraiment très court-termiste. Bon, alors la visibilité, si on en a pas parlé un million de fois dans cette émission, on en a jamais parlé. Mais je crois que ce qui préoccupe le plus les agents économiques dont je fais partie, c'est que en clair, on sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé.
Ah oui.
Parce que il faut pas oublier que le débat lunaire auquel on assiste depuis un an et demi, je veux dire, recouvre tout l'échiquier de la fiscalité punitive.
Ah oui.
Bon. Donc, dans ces moments-là, les gens se recroquevillent. Au niveau international, on a juste deux guerres à gérer et une guerre commerciale qui n'a pas disparu, je le répète. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Ah oui.
Avec donc, écoutez, c'est super. On a une étude qui montre que ça va mieux, mais comme vous l'avez tout fort intelligemment souligné, je veux dire, on n'est pas sur 6 à 7% de croissance. Hein.
Ouais.
Donc ça ferait rêver.
Ça, oui, ça ferait rêver. Oui.
Les problèmes de trésorerie là qu'on constate, est-ce que c'est à l'origine du nombre de défaillances quand même incroyable. Faut expliquer aux auditeurs qui nous écoutent car la moyenne des défaillances, c'est normal que les entreprises meurent, des entreprises se créent et on crée de plus en plus d'entreprises. Ça, c'est formidable pour le dynamisme de l'économie. Il est aussi normal que les entreprises meurent. Mais la moyenne en France, c'est depuis des années environ 50 000 entreprises par an. Là, on est davantage sur du 70 000. Hein. 70 000 défaillances d'entreprises, c'est les chiffres 2025. Et là, on est à 36 000 sur les 6 premiers mois de l'année. Pourquoi ?
Bah, d'abord, il y a toujours un peu un effet rattrapage Covid, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides, évidemment, aux entreprises entre 2020 et 2022.
Donc, on est encore sur l'effet que de commettre du Covid.
C'est minoritaire hein, dans les 36 000 dont vous parlez, mais ça reste quand même un effet qui continue à jouer. C'est ce que des économistes, pardon, le mot est pas très habile, mais j'utilise le terme de la littérature économique,
oui.
Appelaient les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui avaient été maintenues, qui étaient relativement éloignées de la frontière de compétitivité dans leur secteur, qui auraient dû ou pu disparaître s'il n'y avait pas eu les aides de l'État et qui ont été maintenues pendant plusieurs années.
Oui, grâce aux prêts garantis au PGE, les prêts garantis par l'État.
Les PGE, aussi l'activité partielle, l'ensemble des soutiens apportés par les pouvoirs publics. Il y a cet effet-là qui est aujourd'hui minoritaire. Il y a surtout l'effet conjoncture, enfin, c'est ce que vous décrivez. Entre les difficultés d'approvisionnement, les difficultés de trésorerie, et puis globalement des gains de productivité qui restent quand même très faibles dans l'économie française, et une croissance potentielle qui globalement reste très faible. Elle est en fait plus faible, parce que la Banque de France a publié une autre étude, je fais un peu de la pub pour la Banque de France ce matin, publie une autre étude sur la croissance potentielle, celle-ci plus pessimiste, en disant qu'elle était en fait inférieure désormais à 1%. En fait.
Ah oui.
Ouais.
Parce que le Trésor avait déjà, c'était passé assez inaperçu. Il y a que sur BFM Business qu'on parle de ces sujets pourtant majeurs. Le Trésor avait révisé il y a 18 mois, 2 ans, la croissance potentielle de la France qui est de 1,3, qui était de 1,3% traditionnellement, sous les 1%, du fait de la baisse de la démographie, notamment. On est sous les 1%.
Ça, c'est un facteur
maintenant.
Quantitatif, la démographie, mais qui existe, hein. Mais surtout, ce que dit la Banque de France, c'est que les facteurs liés à la productivité, nous ramène entre 0,7 et 0,9% par an. Alors tout ça est abstrait. Mais enfin, dans la vraie vie, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont pas être assez profitables pour prospérer, pour s'agrandir et simplement pour ne pas se mettre dans situation de défaillance. Donc il y a tous ces facteurs, mais le premier facteur qui explique aujourd'hui que les défaillances augmentent, c'est la mauvaise conjoncture internationale, européenne et française.
Bon,
c'est le premier facteur.
Et ce que soulignait aussi Laurent Vronsky, Erwan Le Dran, c'est l'instabilité fiscale. Je rappelle que vous êtes le fondateur de AKA Stratégie, mais vous êtes également directeur de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. C'est votre quotidien à l'IREF. Bref, l'instabilité fiscale.
Oui. Et surtout, comme le disait à l'instant Laurent Vronsky, comme depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis depuis le précédent débat sur le PLF 2026, avec la taxe Zucman et tout ce qui a suivi, on est dans un festival de créativité fiscale. On en parlait récemment sur ce plateau avec maintenant l'idée de ce racket fiscal. Soit vous donnez, soit vous êtes taxé.
Oui, l'idée de Philippe Aguillon, reprise par Sébastien Lecornu qui a dit chiche, on le fait. La fortune des milliardaires au moment de les successions, soit vous mettez une grande partie dans des fonds d'intérêt public, reste à voir comment sont gérés ces fonds, soit on vous taxe très fortement.
Ce qui pourrait être une bonne idée, mais qui part de mauvaises prémices. Il n'y a pas de problème d'inégalité dans ce pays, il n'y a pas de problème de recettes publiques dans ce pays. On croule sous l'argent public. La question,
il n'y a pas de problème d'inégalité en France.
Il n'y a pas de problème d'inégalité en France.
On parlait à chaque fois de justice fiscale.
Mais la justice fiscale, c'est juste... Si on se trompe, absolument on se trompe, mais c'est juste une autre façon de légitimer les augmentations d'impôts continues. Mais ce que je voulais juste dire sur la question de l'instabilité fiscale, c'est que on a là une double séquence qui va être très compliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la présidentielle. Il y a juste avant le PLF 2027, donc le projet de loi de finances pour l'année prochaine, qui va commencer à être en discussion à la rentrée prochaine, dont les arbitrages sont en train d'être faits. Oui. Et ça va être le début du feu d'artifice qui va durer jusqu'à l'adoption du premier budget du prochain président de la République. Donc il y a une immense incertitude pour les entreprises qui fait qu'effectivement, il est complètement embauché quand on ne sait pas si demain, à quelle sauce on va être mangé.
Bah oui, ce que disait Laurent Wronski. Ouais.
Alors, il y a une petite musique qui circule auprès de la machine à café et qui ne touche pas que les milliardaires. Parce que quand on parle de taxer les milliardaires et du risque d'exil fiscal, je veux dire, aujourd'hui, ça touche très largement la classe
moyenne. Oui, souvent, ça a rapidement tendance à s'élargir à une base fiscale beaucoup plus large.
Pour le coup, ça ruisselle. Bon. Et donc, les gens ont très bien compris que vu la situation du pays et la dette, je veux dire, tout le monde se dit, mais c'est évident qu'on va passer à la caisse. Et tout le monde passera à la caisse. C'est pas juste les milliardaires, donc la classe moyenne. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui quittent le pays qui ne sont pas des milliardaires. Il suffit de franchir la frontière. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour trouver un emploi ailleurs, sous des auspices plus cléments au niveau fiscal. Ça, c'est la première petite musique qui circule. Et la deuxième, c'est concernant les retraites. C'est-à-dire que les gens se disent... Surtout les gens qui sont prêts, je dirais, qui sont dans les 60 ans, on dit oulala, il faut se dépêcher de la prendre parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On ne peut pas dire que ces deux tendances sont propices à l'investissement, à la croissance, à l'investissement personnel.
Vous me faites une transition parfaite, cher Laurent, pour le débat suivant, qui est celui sur les retraites, effectivement. Qui va payer? Peut-être les retraités, en tout cas c'est l'avis du comité de suivi des retraites. Pas le comité d'orientation des retraites, c'est une autre instance, mais qui est très suivie, d'experts, qui suivent l'évolution du budget des retraites, de l'équilibre financier de notre régime des retraites, et qui vient de recommander de sous-indexer les pensions sur plusieurs années pour garantir la pérennité de notre système, de préserver la réforme Borne de 2023 qui, je le rappelle, est suspendue pour 2 ans et d'instaurer une règle d'or. Qu'est-ce que vous en pensez, Ryan Neza?
Je trouve que c'est très intéressant. D'abord sur le constat, ce que dit le comité de suivi des retraites, c'est que le déséquilibre du système de retraite est structurel. Moins 7 milliards d'euros en 2030 et ça va se poursuivre jusqu'en 2070 puisque c'est l'horizon de projection du en général du Conseil d'orientation des retraites. En 2070, c'est 2,4% de PIB de déficit. Alors tout ça, évidemment, est là aussi abstrait. Je me permets juste de souligner qu'un jeune ou quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail est concerné par la retraite en 2070. Et donc quand on dit qu'on va léguer 2,4% du PIB, c'est-à-dire en fait ce qu'on investit aujourd'hui dans la recherche et
en milliards d'euros parce que tout le monde ne comprend pas les points de PIB, c'est l'équivalent
c'est plus de
aujourd'hui
70 milliards d'euros.
De 75 milliards d'euros à peu près hein, quand même du premier budget, ça serait le premier budget
c'est
de l'État aujourd'hui.
On dépense à peu près pour l'éducation nationale aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire qu'on lèguerait à cette génération là qui entre aujourd'hui sur le marché du travail un déficit extrêmement élevé et c'est une anomalie. Moi je ne cesse de le dire, au plan économique c'est une anomalie parce que ça n'est pas un investissement le déficit des retraites. On n'est pas en train d'investir dans des équipements, dans des services publics. Non, c'est une dépense
sociale courante.
C'est une anomalie ensuite au plan philosophique parce qu'on fait payer les jeunes. Et c'est une parler d'injustice. À mon avis, la première injustice dans ce pays aujourd'hui, elle est entre les générations. Elle est sur le fait que la génération qui arrive, les plus jeunes, est en train d'hériter de dettes budgétaires et climatiques qu'elle aura beaucoup de mal à résorber. Donc, de mon point de vue, ces constats sont très justes et doivent sonner l'alarme. Ensuite, sur les recommandations, moi j'en note 2. La première, elle est à court terme, vous l'avez évoqué. À court terme, ce que préconise le comité de suivi des retraites, c'est de sous-indexer les retraites.
Alors sous-indexer, il faut expliquer
ce que
c'est la
sous-indexation. Ça veut dire qu'il va y avoir une évolution des prix. Tous les ans, il y a de l'inflation. Bon, en général, un peu moins de 2% par an. Tous les ans, la loi dit les retraites doivent évoluer comme l'inflation. Et tous les ans, il y a un débat au Parlement, en France en tout cas, pour dire... Ah ouais, mais est-ce que, compte tenu de la situation de nos finances publiques, compte tenu du fait que 1 euro sur 4 d'argent public va au système de retraite, est-ce qu'il ne faut pas modérer un peu? Et par exemple, quand l'inflation augmente de 2, augmenter les retraites de 1. Je vous le donne en mille. Si on sous-indexait, comme je viens de le décrire, d'un point par an, Sous-indexé, ça veut dire que la retraite, elle continue à augmenter. Hein,
oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter de 20 ou 30 euros par mois,
on ferait de 15 euros.
On le ferait de 15 euros. Voilà.
Le fait de faire ça à raison de 1 point par an oui. en 2028, en 2029 et en 2030, ça vous permet non seulement d'effacer tout le trou qui est aujourd'hui prévu en 2030, mais vous allez même dégager un petit excédent de 2 milliards, qui est petit certes, mais qui va vous permettre de commencer à rembourser la dette. Donc je trouve que cette recommandation qui est faite est très bonne et très juste. Ensuite, il y a une autre recommandation qui est encore plus fondamentale, à moyen terme, vous l'avez dit, qui est d'instaurer une règle d'or d'équilibre du système de retraite pour dire il n'y a pas de raison qu'on lègue aux générations futures un système en déficit. Je suis évidemment pleinement d'accord. Je pense que cette règle d'or, c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le régime de retraite complémentaire
oui.
Carco,
géré par les partenaires sociaux,
consisterait à dire, eh ben, on va automatiquement sous-indexer un peu les retraites, allonger un peu la durée de cotisation en fonction de la réalité démographique et économique. C'est ce que font les partenaires sociaux quand ils gèrent la Gercarco. Je me permets de dire que c'est ce que font la plupart de nos voisins européens.
Oui.
C'est ce que les Allemands viennent d'annoncer.
Parce que les Allemands viennent
de... Portugais voilà, exactement. Font, etc., etc. Donc je pense que ce sont de très bonnes recommandations. Je ne suis pas certain qu'elles soient suivies au Parlement.
On parle beaucoup de la Banque de France ce matin. Le gouverneur honoraire dorénavant, hein, François Villeroy de Galo, parlait de gérontocratie en France en parlant des systèmes de retraite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on privilégie nos seniors à la jeunesse en France, Erwan Lenoran?
Oui. Je pense qu'on est dans un système. Mais on a construit un système pour une période de croissance et de répartition qui bénéficiait aux personnes qui avaient d'autres carrières que celles qu'on a aujourd'hui. Et il y avait une logique de redistribution. Moi, qui aujourd'hui est déséquilibrée. Je suis pas totalement fan du discours conflit des générations.
Bah
parce
non.
que je pense que c'est pas la bonne solution, que les gens.
Ça rajoute du conflit à une société déjà très tendue aussi.
Il n'en manque pas vraiment que les retraités qui sont aujourd'hui à la retraite ont eux-mêmes cotisé pour les générations d'avant, qu'ils ont fait toute leur démarche de manière fort sincère dans leur travail, et que les pointer du doigt comme étant les méchants de l'affaire est, à mon avis, un peu facile et ne résout pas les choses. Aujourd'hui, la jeune génération, évidemment, a des défis devant elle. Enfin bon, les générations précédentes qui ont connu la crise de 73, qui ont connu les guerres, etc. Je suis pas certain que c'était beaucoup plus facile. Donc ce discours conflit des générations, je pense que c'est pas le bon. Par contre, effectivement, le sujet, c'est aujourd'hui une question qui était posée en 2007, je crois, par l'Académie des sciences morales et politiques. La France prépare-t-elle bien l'avenir de sa jeunesse? En 2007-2008, ce petit livre concluait que non, pas vraiment. Il y a la question des retraites, mais on pourrait parler des questions d'éducation, etc., et plein d'autres encore. Je pense que le constat s'est encore aggravé, et c'est ça le vrai sujet, c'est comment est-ce que aujourd'hui, par nos politiques publiques et notre compétitivité et tout l'ensemble du pacte social, on prépare l'avenir de la jeunesse.
Et par le cumul emploi-retraite.
Ben justement, j'allais venir. Moi, j'ai un sujet sur les retraites. Je pense que concernant les seniors, plutôt que de les culpabiliser et globalement de leur dire vous êtes des bouches inutiles, globalement les tabous.
Ça, hein. Non, mais c'est pas ce que dit le rapport. Hein.
Non, mais je parle pas du rapport, mais je parle si vous voulez.
Il y a une petite musique.
Il y a une musique ambiante.
Les boomers se gobergent
voilà,
sur le dos
si
des
vous
actifs.
Voulez, y a
la tendance Nicolas qui paie, etc. C'est vrai que c'est pas non plus comme ça qu'on résout les solutions. Il faut un bilan froid de la situation, objectivé. Et que tout le monde comprenne que ceux qui peuvent doivent peut-être faire un effort.
Là, on est entre gentlemen, donc on utilise des mots, je dirais, un petit peu polis, mais ce qu'on entend souvent, c'est, on paye pour les vieux. Non, on paye pas pour les vieux, je veux dire, c'est ce que monsieur expliquait. D'abord, c'est les anciens, et c'est les anciens qui ont dû savoir. Et c'est pour ça que je pense que c'est une transition par rapport à, pour moi, un éléphant au milieu de la pièce, qui est la réforme du cumul emploi-retraite, qui va rentrer en action, pas dans 15 ans, c'est 1er janvier 2027. Et ça, pour moi, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Alors je passerai aux auditeurs le détail de la loi parce que ça donnerait mal à la tête à une aspirine, mais ce que ça veut dire, c'est que globalement, à partir du 1er janvier 2027, c'est pas vraiment intéressant de cumuler un emploi et une retraite. Et ça, pour moi, c'est un drame absolu. Pourquoi ? J'appartiens à une corporation qui est l'industrie, il n'y a pas d'école du compresseur. Donc aujourd'hui, une grande partie du savoir-faire qui est le nôtre est détenue par nous-mêmes, est détenue par nos anciens, qui doivent le transmettre à des jeunes, qui n'ont pas forcément envie de le transmettre 5 jours par semaine, mais donc de pouvoir le transmettre 2-3 jours par semaine, mais ça c'est du bon sens, c'est intelligent. Alors, ce que je viens de vous expliquer dans le domaine du compresseur, mais je veux dire, je peux le décliner sur une quantité de secteurs, et donc il va y avoir, pas dans 10 ans, dans 6 mois, il va y avoir une hémorragie au niveau de ces anciens qui peuvent transmettre leur savoir et qui, par cette loi, vont être complètement découragés de travailler. Donc ça, je pense que c'est un drame national, parce que je rappelle quand même que dans certains secteurs, notamment celui auquel j'appartiens, quand on regarde la pyramide des âges, elle est quand même très, très largement inversée. Donc, voilà un exemple de réforme intelligente qu'il faudrait faire pour justement que les anciens conservent un pied dans l'activité, puissent transmettre le savoir, et en plus, je dirais que ça facilite le frottement entre les générations.
J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on évoque depuis 20 ans, cette transmission entre les générations, et ça n'avance pas, on prend même des mesures qui vont dans le mauvais sens. C'est parfaitement incompréhensible, Ryan Nézard.
Oui, moi, sur la réforme du cumul emploi-retraite, moi, je partage assez ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vrai que ça va conduire à désinciter l'activité pour des personnes qui sont à la retraite.
Mais quelle est la logique de cette
réforme ? La logique, c'est quand même, si on regarde le système actuel, c'est quand même de dire que, d'une part, c'est très complexe entre la retraite de base et la retraite complémentaire. Je ne permettrai pas de donner mal à la tête à une aspirine, comme vous l'avez dit, ça m'a fait sourire. Mais c'est vrai que les règles actuelles sont extrêmement complexes. Oui. Il y avait un besoin, au moins d'harmonisation, ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord dessus. En revanche, là où il y avait aussi des situations un peu étonnantes, c'est que vous pouviez avoir un cumul intégral de droits entre la retraite et une activité salariée, alors que vous preniez vous liquidiez votre retraite avant l'âge légal. Et ça, c'est vrai que ça donnait le sentiment que on incitait les gens, c'était un peu un système de pré-retraite encouragé, oui. On incitait les gens à partir plus tôt. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est un système dans lequel vous pouviez avoir un cumul emploi-retraite à partir de l'âge légal, mais ensuite vous pouviez cumuler intégralement entre la retraite et une activité salariée, ou indépendante d'ailleurs. C'est pas rien, hein, c'est plus de 700 000 personnes qui utilisent aujourd'hui cumul emploi-retraite.
C'est pour ça que j'en parle.
C'est une réalité énorme. Sociale, économique, et aussi, je pense, politique. Et donc, ça signifie qu'on aurait pu, mais bon, ça peut évoluer à l'avenir, on aurait pu avoir un système qui évite de décourager à l'activité, mais qui rétribue les personnes qui font l'effort de continuer à travailler, à transmettre une expérience, à produire de la richesse pour notre société. Voilà, donc je pense que la réforme va un peu trop loin, c'est un avis personnel. Ça ne veut pas dire néanmoins que le système actuel était parfait.
Oui, oui. Bon, enfin, c'est une question de bon sens, quoi.
Alors, si ça vous... Nous, on a... Alors, je mets ma casquette Croissance Plus, donc oui. Moi, j'ai des camarades qui sont des spécialistes des retraites, etc. Donc, on a fait justement une étude assez poussée pour montrer que les fondements de la réforme sont basés sur des hypothèses comportementales que nous ne reconnaissons pas. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je pense que, concernant ce sujet, qui est un vrai sujet de société, ce n'est pas que l'affaire de l'État. C'est aussi, si vous voulez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux dire, vous avez des sociétés où, si vous voulez, globalement, à partir de 55 ans, on fait tout pour pousser les gens dehors. Donc, je ne suis pas en train de faire une leçon de choses, mais ça aussi, c'est quand même un vrai sujet.
Oui.
C'est-à-dire que je rappelle qu'en France, on considère qu'on est senior à partir de 45 ans.
Je suis senior.
Je crois qu'il y a voilà, on est déjà deux autour de ce plateau. Donc là aussi, je pense qu'il y a une révolution copernicienne à faire dans les entreprises pour, je dirais, conserver les seniors et modifier leur travail et faciliter la transmission.
C'est bien de rappeler le message aux chefs d'entreprise aussi, parce que cette transition, elle passe par l'entreprise d'abord et avant tout. Mais ça avance. Ça avance.
Absolument.
Au fur et à mesure qu'on repousse l'âge légal de départ en retraite, on voit que les 55-60 ans sont quand même bien, bien davantage au travail. Reste beaucoup de boulot à faire sur les 60-64 ans dorénavant. C'est la conclusion de cette première partie des experts. Restez avec nous. On va parler de l'inquiétude qui monte en Europe autour de l'éligibilité de Marine Le Pen, qu'on a évidemment traité et couvert cette semaine. Pourquoi l'Europe s'inquiète ? Ce sera le prochain débat, et puis on va faire un petit bilan et perspective de l'année et des mois à venir. C'est la DER avant de faire le break estival. On va voir ce qu'en pensent mes invités, ne quittez pas.
BFM Business et la Tribune présente les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h, passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts. Pour une demi-heure encore de débats et de controverses, là, on va s'intéresser, on va sortir un peu des frontières françaises pour s'intéresser à ce que pensent nos voisins européens de l'éligibilité de Marine Le Pen, qui était donnée pour morte politiquement dans beaucoup de capitales. Et aujourd'hui, à Bruxelles, comme à Berlin notamment, le retour de Marine Le Pen dans la course à l'Élysée inquiète davantage qu'une candidature de Jordan Bardella. C'est ce qu'on voit dans pas mal de coupures de presse. Pourquoi, Ryan Nezat ? C'est le même parti, c'est le même programme, après tout.
En réalité, aujourd'hui, je me suis replongé dans le programme présidentiel de 2022 de Marine Le Pen pour préparer cette émission. Et en réalité, je pense que tous les diplomates européens en poste à Paris ou à Bruxelles sont en train de faire la même chose. Et quand on se plonge, quand on décortique, le programme de Marine Le Pen représente un risque systémique pour l'Europe, en réalité. Je vais prendre trois exemples. En matière économique et budgétaire, la grande proposition de Marine Le Pen, c'est la retraite à 60 ans.
Oui.
L'Institut Montaigne avait chiffré cette réforme à entre 25 et 30 milliards d'euros.
62 ans aujourd'hui et 60 ans pour les carrières longues, ceux qui ont commencé à
Pas que les carrières longues, en réalité. Hein. Enfin bon, effectivement, leur projet a changé, mais le projet de 2022, c'était la retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'est un coût qui représente deux fois le budget de nos universités. Deuxième proposition, il y a des propositions d'augmentation de dépenses publiques dans tous les secteurs. Les retraites, la santé, les EHPAD, l'école, la justice, la police, les armées, tous les secteurs, et des baisses d'impôts pour tout le monde. Au total, toujours l'Institut Montaigne avait chiffré à plus de 100 milliards d'euros par an le coût de ce projet présidentiel. Troisième élément en matière économique, la sortie du marché européen de l'électricité.
Oui.
Alors que la France était excédentaire de 5 milliards l'an dernier, puisqu'on exporte plus d'électricité qu'on en importe grâce à notre parc nucléaire historique. Et donc l'ensemble de ce projet économique conduirait, s'il était appliqué aujourd'hui en 2027, conduirait la France à avoir un déficit public de plus de 8% de sa richesse nationale. Très concrètement, c'est un risque d'accidents sur les marchés financiers pour la France et une exposition pour à la fois l'euro et nos partenaires européens sur les marchés financiers. Je poursuis avec les risques politiques et géostratégiques. Le risque politique, il est que dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, alors il n'y a plus le Frexit en tant que tel, puisque...
Oui, c'est ça, c'était la principale menace sur l'euro. Bon, ça a été écarté, puisque le RN a bien vu que le système n'en voulait pas.
Pour le dire très cash, c'est très hypocrite. En 2017, c'était en fait assez sincère, parce que c'était un référendum, comme les Britanniques l'ont fait, pour la sortie ou contre la sortie de l'Union européenne qui était proposée. En 2022, il n'y avait pas cette idée de référendum, il y avait l'idée de dire, on ne va pas respecter les règles du marché intérieur, donc on va rétablir le contrôle des marchandises, des personnes aux frontières, il y aura des files d'attente, etc. Mais on ne veut pas sortir formellement de l'Union européenne. De la même manière, on va baisser de 25 milliards, nous dit le projet du RN, on va baisser de 25 milliards d'euros sur le quinquennat la contribution de la France au budget européen, mais on ne veut pas sortir du budget européen. On veut bien continuer à toucher la PAC parce que c'est important pour nos agriculteurs. Donc si je résume, ne pas respecter les règles, ne pas payer sa part du budget, concrètement, ça veut dire une crise politique majeure entre la France et la Commission européenne, entre la France et ses partenaires, notamment l'Allemagne et l'Italie. Et puis enfin, au plan géostratégique, je rappelle qu'en 2022, ça peut surprendre aujourd'hui, hein. Mais le projet du RN, c'était l'alliance militaire avec la Russie.
Oui.
C'était écrit noir sur blanc dans leur projet. Alors, je doute qu'ils osent proposer ça pour 2027, mais ça veut dire quand même qu'à la table du Conseil européen, ils auront un droit de veto. Et donc, comme M. Orban le faisait quand il était à la tête de la Hongrie, ils pourront, s'ils sont à la tête du pays, bloquer des décisions de soutien financier, militaire à l'Ukraine, et bloquer de manière générale le fonctionnement de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai essayé de le montrer avec quelques exemples pour être objectif et factuel, ce projet présidentiel est un risque systémique pour l'Europe.
Oui, le risque, c'est une urbanisation finalement de la France, effectivement, sauf que la France n'est pas la Hongrie, on est la deuxième puissance européenne et que c'est un risque beaucoup plus majeur. Alors, si je résume, on n'est plus sur un risque de sortie de la France, mais que la France soit au sein de l'Europe le maillon faible en termes budgétaires, Erwan Lenoir.
Oui, puis au-delà, comme on le disait très justement à l'instant, au-delà du budgétaire, que ce soit non seulement le maillon faible, mais le plus gros facteur de risque et de déstabilisation. Ouais. Dans votre question, il y avait aussi... Pourquoi, de toute façon, la candidature de Marine Le Pen inquiète plus
que Jordan Bardella.
Celle de Jordan Bardella. Je pense que c'était assez une illusion qui avait pu être entretenue que Jordan Bardella et Marine Le Pen n'auraient pas les mêmes visions de l'économie. Quand leur entourage discute en privé, ils expliquent qu'ils ont la même vision, mais c'est un discours pour expliquer à quel point ils sont proches. L'image a été que Jordan Bardella serait plus pro-business que l'est Marine Le Pen, qui, elle, a quand même une vision très interventionniste, très souverainiste et très dépensière du rôle de l'État dans l'économie.
Il était plus conciliant, Jordan Bardella, avec l'Europe. Il a donné notamment au mois d'avril, une interview à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où il expliquait que le président français devait fonctionner main dans la main avec le chancelier allemand et qu'il y avait beaucoup de points de convergence sur l'immigration, la compétitivité, etc., avec la CDU allemande.
Il y a eu tout un travail de tentative de normalisation du RN sur les questions économiques et européennes. Cela étant, moi je pense que ils se sont considérablement nuis en termes d'image et de positionnement économique, avec un sujet qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le projet de loi de finances pour 2026. Quand ils ont eu dans l'hémicycle des discours effectivement sur la réforme des retraites et la retraite aux 60 ans, quand ils ont voté les augmentations d'impôts, notamment sur les plus riches, avec un discours
et sur les grandes entreprises,
les grandes entreprises qui étaient quand même anti-riches, anti-grandes entreprises, qui je crois, a refroidi un certain nombre de dirigeants économiques français ou internationaux qui s'étaient dit, bon, c'est pas notre tasse de thé spontanément, mais ils vont faire quelque chose comme ce qui s'est passé en Italie, où il y a une leader populiste qui est élue, mais qui a derrière une crédibilité
économique. L'effet Meloni a beaucoup joué.
L'effet Meloni a beaucoup joué. Qu'ils en ont joué. Mais ils se sont nuits, et ils ont quand même assez joué eux-mêmes contre leur camp avec le projet de loi de finances. Et Marine Le Pen apparaissant comme étant et affichant elle-même un discours économique beaucoup plus interventionniste, ça augmente l'incertitude et l'inquiétude. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait des si grandes différences en réalité dans leur façon dans la façon qu'ils pourraient avoir de gouverner.
Bon, Laurent,
on parlait d'incertitude. Donc moi je suis dans la concrétude et je me dis finalement c'est quoi le programme économique du RN et
c'est très flou encore.
Donc du coup finalement moi je serais incapable de le définir parce que je dois dire qu'il est assez émouvant. Alors après on peut croire que ça sera comme ce qui se passe à côté, mais on n'en sait absolument rien. Donc ça rajoute une incertitude puisque je veux dire qu'elle est donnée largement gagnante dans les sondages. Mais moi aujourd'hui je suis incapable de vous dire quelle est la ligne claire, quelle est l'épine dorsale économique.
Bah on a ces deux têtes avec un Jordan Bardella qui est vu comme plutôt pro-business et une Marine Le Pen social-étatiste, sauf que là, c'est Marine Le Pen qui reprend très clairement les clés du camion, rien n'est simple.
Juste là-dessus, on disait, les deux n'ont pas la même vision de l'économie.
Oui.
Je suis encore plus dur, je pense que les deux n'ont pas de vision de l'économie. Je prends un exemple qui est le sujet de l'énergie, qui est aujourd'hui fondamental à la fois pour la compétitivité des entreprises françaises et plus largement pour l'avenir du continent européen. Les propositions qui sont faites, je le disais, la sortie du marché européen de l'électricité, c'est quand même, on se tire une balle dans le pied. Voilà un domaine dans lequel on est meilleur.
Philippe Tanguy, qui est le grand spécialiste au Rassemblement National, vous explique qu'il n'a jamais été question de couper les câbles, que ce serait idiot, mais de revoir les règles de tarification.
Je confirme que ce serait idiot.
Au niveau européen.
Je confirme également que ces règles ont été revues en 2024 et que leurs eurodéputés ont voté contre la révision de ces règles, donc il faut être un petit peu cohérent dans la vie. Et par ailleurs, je confirme que c'était écrit noir sur blanc. Je me suis encore rendu sur leur site hier soir pour préparer nos échanges de ce matin. Il faut quand même être assez factuel, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Chacun a le droit d'avoir des opinions.
On est là pour rétablir
les... Il faut essayer d'être objectif. Deuxième exemple sur l'énergie, la TVA à 5,5 sur le carburant.
Oui.
Alors oui, c'est sympathique pour les automobilistes, ça j'en doute pas. Et je comprends que ça puisse être fait en période d'augmentation des prix du pétrole. Mais je rappelle que ce sont des énergies fossiles qu'on importe. On ne produit pas de pétrole en France. On n'extrait pas de pétrole en France. Donc c'est là encore une dépendance vis-à-vis notamment du Moyen-Orient qu'on renforcerait avec cette proposition. Dernier élément, la fin des investissements dans les énergies renouvelables. Là aussi, on se tire une balle dans le pied. On peut très bien se dire qu'il y a des investissements qui coûtent trop cher, qu'il faut renégocier des contrats, notamment sur les énergies solaires, qu'il faut accélérer des procédures. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Mais de dire la France va arrêter l'énergie solaire, va arrêter l'éolien, mais c'est au moment où tous nos voisins sont en train d'accélérer. C'est quand même là aussi une balle dans le pied qu'on se tire. Et si vous voulez, si vous regardez les unes de presse internationales au lendemain de la condamnation en appel et de l'annonce du pourvoi en cassation de Marine Le Pen, vous constatez en fait l'ampleur du problème de confiance que représenterait son élection à la tête du pays.
En même temps, les droites populistes augmentent absolument de partout en Europe. On a beaucoup d'élections très importantes qui arrivent l'année prochaine. Et vous avez la moitié des textes au Parlement européen qui sont aujourd'hui votés entre le PPE, le parti de droite traditionnel européen.
Et avec beaucoup de retours en arrière.
Trois partis.
Avec beaucoup de retours en arrière. Si je prends juste, pardon, je suis un peu long, mais pour terminer, je me suis noté les quelques exemples de une de presse parce que je trouve que c'est intéressant aussi de se décaler par rapport à une vision franco-française, de voir comment nos voisins regardent le débat politique français.
C'est le sujet de ce débat.
Der Spiegel en Allemagne, qui dit c'est quand même étonnant, elle est condamnée deux fois, elle se présente quand même, elle avait dit qu'elle se présenterait pas si elle était condamnée une deuxième fois.
Elle est haute et main propre. C'était
quand même
le slogan donc, il y a quelques années du.
Ils sont pas provocateurs parce que ils ont pas ce registre-là, mais ils disent il y a quand même un petit problème de confiance. La BBC, alors certes, ils sont plus dans l'Union européenne, les Britanniques, mais enfin bon, c'est quand même un partenaire, y compris en matière de défense.
Oui.
Inquiète de l'euroscepticisme du RN, notamment de Marine Le Pen, et inquiète des conséquences que cela pourrait avoir pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Corriere della Sera, en Italie, qui dit encore, il y aura encore un Le Pen comme depuis 45 ans en France. Donc finalement, la classe politique française se renouvelle pas. El País en Espagne, Marine Le Pen a trahi sa parole de ne pas se représenter. Et donc, là aussi, problème de confiance. L'Espagne est quand même un des partenaires européens aussi très importants. Je termine au-delà de l'Union européenne. New York Times, avec le président Trump à la tête des États-Unis, New York Times fait une comparaison très directe entre la manière dont les dirigeants du RN ont parlé de la justice française, la manière dont ils ont essayé, de mon point de vue, de faire pression pour qu'il n'y ait finalement pas de décision de cassation avant l'élection présidentielle. Donc en fait, tout ça passe un peu sous le tapis. Ils ont comparé ça avec le comportement de Donald Trump. Donc vous voyez, l'image qu'on est en train de renvoyer à l'international, ça compte aussi, ça compte pour la crédibilité du pays, ça compte pour son poids à l'international. Et je pense quand même, malgré toutes les critiques qu'on peut faire au président Macron, que c'est un des éléments sur lequel il y a des points positifs dans son bilan. Et enfin, ça va compter aussi pour les entreprises françaises. Parce qu'à chaque fois qu'on va exporter, on va regarder aussi quels sont les dirigeants de notre pays.
Thierry Ruel réagit sur le compte Twitter. N'hésitez pas à réagir. Hein. Les gens votent pour le rêve de voir Trump qui allait faire baisser les prix. Et finalement, tout augmente. Voilà.
Non, mais absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'effectivement, Marine Le Pen inquiète, l'élection de Marine Le Pen et du RN de manière générale inquiète nos partenaires. Plus largement, l'élection présidentielle française inquiète nos partenaires parce que ils voient comme
Mélenchon
nous qu'il y a Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté et que le bloc central ne brille pas nécessairement par une vision très claire, un projet très enthousiasmant et une dynamique électorale très forte. Mais je pense que tout ça n'a aucun effet sur les électeurs qui s'apprêtent à voter RN.
Oui.
De savoir que les Allemands sont pas contents,
oui,
que les Espagnols non plus, ils s'en moquent complètement. Par contre, qu'il faut leur faire comprendre mesurer ce que serait une élection de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou pas, c'est les risques que cela emporte pour eux, pour leur épargne, pour l'économie, parce que comme on le disait très justement à l'instant, il y a un risque de crise qui dépasse la France en cas de politique budgétaire, quel que soit le gouvernement, mais de politique budgétaire irresponsable, et que nos partenaires, la BCE, y sont attentifs, qu'ils commencent à se répéter la petite musique dans Paris que à partir de juillet 2027, la Banque Centrale européenne sera très vigilante sur ce qui se passera en France, et qu'à un bout d'un moment, on va arrêter elle sifflera la fin de la récréation. Une crise budgétaire, une crise politique européenne, ça veut dire concrètement une France qui s'affaiblit politiquement, mais ça veut dire de la croissance en moins, ça veut dire de l'épargne des Français qui est menacée. Le risque, il est là. Et ça, je pense, ça a plus d'impact sur les électeurs, au demeurant, et très financièrement, que le fait que les Allemands ne seront pas contents.
Bon, Laurent, des électeurs qui vous diront en même temps que on a mis 1 000 milliards de dettes supplémentaires sur leur dos ces 10 dernières années, que l'état budgétaire est absolument catastrophique et que finalement, les seuls qu'on n'ait pas essayé, c'est le Rassemblement National ou la France Insoumise.
Là, nous, on a un débat très rationnel, on a quand même un peu de compétences économiques, donc tous les arguments qui sont soulevés sont probants, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de colère dans le pays. Il y a beaucoup de colère concernant des sujets de la vie de tous les jours. C'est pas des gens qui sont en train d'analyser le PIB, la dette française. Donc le problème de ça, c'est que quand vous avez de la colère, et c'est valable pour toutes les situations, elle vous aveugle.
Ça n'est pas rationnel.
Et donc là, on court le risque d'avoir un vote qui soit un vote contestataire, de colère, etc., qui sera motivé par de l'émotion, qu'on peut tout à fait comprendre. Après l'argument, c'est dire on verra. Donc on est tous d'accord que, et on vient de l'évoquer, ce programme économique assez fluctuant comporte énormément de risques, mais il faut bien comprendre ce qui est à l'origine de ça, et ce qui est à l'origine des votes populistes dans le monde occidental. La France n'est pas, comme vous l'avez souligné Raphaël, n'est pas une anomalie. Donc si on ne s'adresse pas à ces sujets, qui sont concrets. C'est quoi la première préoccupation des gens? C'est le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat.
Ok, c'est globalement, je vais au supermarché. Est-ce que je peux acheter plus?
Avec un taux de pauvreté qui atteint des records.
Je vais à la pompe. Et après, c'est la sécurité. Vous voyez, on est dans la concrétude. On n'est pas dans les grands concepts philosophiques. Tant que ces sujets-là ne seront pas traités, on courra le risque d'avoir, je dirais, des discours très populistes qui exploitent cette colère.
Vous êtes d'accord avec ça, Ryan?
Complètement d'accord. Et il va falloir que dans l'ensemble du débat public, ceux qui sont candidats comme ceux qui n'étant pas candidats, mais comme vous, ont quand même une voix qui porte, puissent mettre des propositions sur la table, concrètes, qui parlent à l'ensemble des Français et qui apportent des solutions.
Bon, ce sera évidemment l'un des grands sujets des prochains mois et on suivra tout ça de très près dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais pour terminer, je voulais votre avis sur ce qui vous avait marqué, le fait économique de l'année selon vous et ce que vous allez surveiller l'année prochaine, les signaux faibles qui dicteront la conduite de l'économie dans un sens ou dans l'autre en 2026-2027, Erwan Lenoant.
Le fait économique macro majeur pour moi, c'est évidemment le conflit au Moyen-Orient qui, pour ce qu'il a eu comme effet immédiat sur les prix de l'hydrocarbure, sur les chaînes de la perturbation des chaînes de valeur et du commerce international, et pour ce que ça révèle du niveau de tension géopolitique, d'incertitude géopolitique. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les tensions, les conflits reprennent, ou en tout cas les échanges militaires reprennent. On est dans une phase qui est très très périlleuse, très dangereuse et très incertaine.
Voilà. Donc,
ça pour moi c'est le fait majeur des derniers mois. Et pour ce que ça révèle aussi des limites de la puissance américaine à certains égards, de l'attitude de Donald Trump, la stratégie de Donald Trump vis-à-vis des mouvements de révolution en Iran qu'il a finalement échoué à soutenir. Ça à mon avis, un fait structurel et structurant des prochaines années. Sur les prochains mois, je vais dire quelque chose de très très banal. Moi, ce que je vais surveiller, c'est le projet de loi de finances et le positionnement des candidats à l'élection présidentielle et de leur parti, qui vont nous annoncer des grandes réformes ou des grands changements politiques, quels qu'ils soient, pour mars, mais qui, en 3 mois ou 4 mois avant, vont voter un budget qui sera comme tous les autres, fait de fiscalité accrue et de dépenses publiques probables, au mieux stables.
Bon. Même question, Laurent Wonski.
Écoutez, moi, je vais vous en donner pour votre argent. Moi, il y a 3 faits qui m'ont marqué, vraiment. Alors, si je prends ma lunette internationale, il y en a 2. Il y a évidemment le conflit au Moyen-Orient, mais il y a aussi la guerre commerciale.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose avec lequel nous vivons. C'est-à-dire que si on veut exporter, il faut pouvoir exporter dans de bonnes conditions. Nous, on s'est comme réveillé un matin, je dis bien un matin, avec 35% de taxes sur nos produits, quoi. Donc ça, on peut appeler ça un fait marquant. La guerre au Moyen-Orient a aussi des conséquences très importantes en termes de logistique. Ça va du transport des marchandises, c'est pas que les hydrocarbures, il faut le savoir. Je veux dire que ça impacte toutes les chaînes logistiques industrielles. Donc ça, c'est un petit peu, on revit en moins spectaculaire ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et le troisième fait qui m'a marqué, alors ça a pas vraiment commencé en 2026, mais c'est que en clair, on est allé au musée économique et on a sorti des idées complètement préhistoriques. Que je pensais définitivement enterré et qu'on allait définitivement laisser dans la section préhistorique du musée de l'économie. Et c'est tout ce débat auquel on a assisté. Il faut taxer les riches, c'est ça le problème. Il n'y a pas la dépense publique, on n'a pas besoin de s'y intéresser et de la rendre plus efficace. Les problèmes viennent du fait que globalement, depuis 10 ans, on fait des cadeaux aux entreprises et aux riches. Et donc, on va sortir le carnet de chèques de l'État pour taxer tous ces gens-là et tout va bien se passer. Donc ça, je dois dire que j'ai été assez surpris et c'est un euphémisme.
Oui, et ça a été très rapide.
Très rapide.
Bon, Ryan Nézard.
Peut-être 2 événements. Un qui concerne nos voisins allemands. Il y a quelques semaines, le chancelier Merz, donc vous savez que c'est une coalition qui gouverne l'Allemagne, ça va des sociaux-démocrates aux conservateurs. Le chancelier Merz a annoncé un plan de réforme en fait, assez majeur, qui, moi, m'a fait penser à ce que Schröder, social-démocrate, avait fait dans les années 2000.
Absolument.
En mettant tout
avec
sur la table.
Réforme Hartz.
En disant, en gros, on a 2 problèmes. On n'investit pas assez dans l'avenir et on n'investit pas assez dans la défense. Et donc, ce qu'ont mis sur la table les Allemands, c'est toutes les réformes sur les retraites et la santé. Donc, ajustement automatique du niveau des retraites en fonction de la situation démographique, allongement de la durée.
Et allongement de la durée indexée sur l'allongement de la durée.
Sur la santé, pardon, des mesures très fortes pour limiter le coût des arrêts de travail et le nombre d'arrêts de travail.
Oui, on a le même débat en France actuellement.
Ah, hein, oui, non, mais
finalement,
bien sûr,
on voit qu'on a quand même beaucoup de similitudes avec.
Eux prennent des mesures assez fortes. Réduction de la surconsommation de médicaments. Toutes ces économies, en leur donnant plus du sens, c'est-à-dire politique, sociétal, pour dire on va avec ces réformes pouvoir financer un pays, en l'occurrence l'Allemagne, plus autonome du point de vue de sa défense, avec un budget de la défense qui va revenir en fait au niveau que l'Allemagne de l'Ouest à l'époque avait au moment de la guerre froide, dans les années 70, 3,5% de PIB. Et sur les infrastructures et le climat, un fonds énorme de 500 milliards d'euros pour... Alors, il est vrai qu'il y avait beaucoup de retard, hein, notamment sur on pense aux lignes à grande vitesse qui fonctionnent pas.
Toutes les infrastructures en Allemagne, il y a eu un défaut d'investissement absolument majeur.
Mais donc, avec un plan qu'on n'a pas du tout en France parce qu'on n'en a pas les moyens, malheureusement, mais un plan de réinvestissement dans les infrastructures et la transition climatique qui ferait pâlir d'envie l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Et donc, moi, j'ai été marqué, si vous voulez, par une forme de maturité démocratique aussi, parce que d'abord c'est une coalition, je l'ai dit, hein, entre des pays, des partis, pardon, de gauche de gouvernement et de droite de gouvernement, qui sont loin d'être d'accord sur tout, mais qui arrivent pour l'intérêt général, et vous allez voir où j'en arrive après, mais qui arrivent eux pour l'intérêt général à se mettre d'accord sur un agenda de réforme. Et par ailleurs, ils se sont appuyés sur des faits. Vous parliez à très juste titre, évidemment, de la colère qui travaille la société française. Il y a une colère aussi dans la société allemande, avec une montée aussi des partis extrêmes là-bas. Et ben, ils se sont dit, face à cette colère, on va analyser de manière très froide les éléments. Ils ont demandé, pour être très concret, des rapports d'experts,
sur
la situation des retraites. Et
dire, on va vous dire la vérité. On parle quotidiennement dans cette émission.
La différence entre les populistes et nous, c'est que nous, on va vous dire la vérité. Et après, vous ferez vos choix aux élections, mais on va vous dire la vérité. On va avoir le courage d'assumer les conséquences de ces choix. On va mettre en œuvre ces réformes. Et ensuite, si elles ne vous conviennent pas, que vous voulez revenir en arrière, vous pouvez voter pour d'autres options. Mais au moins, ils ont la cohérence.
Vous voulez dire que c'est rationnel, quoi. C'est moins passionnel.
C'est pas juste rationnel. C'est pas juste une question de raison. C'est courageux. C'est courageux et c'est lucide. Et j'en termine avec le deuxième événement, beaucoup plus bref, qui est à venir, qui concerne évidemment la France. Ce sera vous l'avez dit, hein, Erwan, le révélateur que sera le débat budgétaire pour 2027. Et on verra ce que les uns et les autres proposent sur les retraites. On verra qui dira qu'il faut absolument pas toucher à l'indexation des retraites ou à la suspension de la réforme des retraites. Et je pense que ce sera un révélateur. Et ce sera aussi, pour terminer, pour le prochain ou la prochaine président de la République, en fait, le point de départ, ça dictera les marges de manœuvre du prochain quinquennat. Si on commence le prochain quinquennat avec un déficit public au-delà de 5% de notre richesse nationale, autant vous dire que toutes les promesses qui seront faites pendant la campagne ne verront pas le jour parce qu'il n'y aura pas les marges de manœuvre.
Bon, suivre le modèle allemand, nous propose Ryan Nézard pour la suite des débats publics qu'on aura en France. Et en même temps, Laurent Wronski, j'ai envie de vous dire, ils ont peut-être la maturité démocratique, mais les performances économiques sont quand même bien moins bonnes que celles de la France. Le modèle économique allemand est en train d'exploser pour différentes raisons, qu'on a beaucoup évoqué.
C'est pour ça qu'ils font ces réformes, en fait. Hein.
Et voilà. Mais finalement, ils sont au pied du mur, alors que l'économie française continue, elle, bon an mal an, de tourner, trop doucement, bien sûr, mais continue de tourner, non ?
Oui, mais on peut pas faire fi des différences culturelles. Et je pense que vous parlez de coalition. Écoutez, si on veut voir la version française de la coalition, je vous invite à lire Astérix. Après chaque aventure, à la fin
c'est
du
bientôt
livre.
L'été, les vacances, profitez.
Je trouve que c'est un excellent, si vous voulez, condensé de
le village gaulois.
Okay, eh bien, à la fin de chaque aventure d'Astérix, vous avez un banquet.
Oui.
Tout le monde s'embrasse. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du banquet ? Tout le monde se tape dessus. Bon. Donc ça, c'est la version française de la coalition. La deuxième chose, ça je pense que c'est beaucoup plus grave. Vous avez dit, il faut un discours de vérité. Il y a un mythe qui circule en France, et je pense qu'il est assez toxique, c'est de dire, bon, ils râlent toujours, on joue à se faire peur, mais finalement la France est un pays riche, ça va pas si mal que ça, regardez, on est toujours là, les trains partent toujours, etc. Et ça, je crois que c'est très très dangereux, parce que c'est un mythe qui est très très ancré dans la culture française. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui y croient, et il y a beaucoup de gens qui y croient.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on est en train de s'enfoncer sans qu'on le voit.
Ce que je dis, c'est qu'on est en train de choisir le morceau que va jouer l'orchestre sur le Titanic.
Ah ouais, non.
Je rejoins tout ce qui a été dit avec une nuance, c'est-à-dire que je pense que ce discours sur « finalement ça va pas si mal », c'est en réalité le discours d'une en grande partie de l'élite aujourd'hui. De dire « voyez, finalement, on résiste pas si mal. Regardez nos voisins, on a des institutions qui tiennent le coup, l'économie ça pourrait être pire ». Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la colère. Les électeurs français, ils ont pas du tout, je crois pas du tout qu'ils aient cette conscience de ça va pas si mal.
Ça, je vous le confirme.
Et je pense que au contraire, un autre fait marquant des derniers mois, c'est cette accélération d'une idée de défaillance de l'action publique.
Oui.
C'est-à-dire que les questions qui pourraient être des faits divers, mais de violence, d'émeute ou de meurtre de cette jeune fille Yana. Ont touché aussi fortement la société française parce que je crois que ça a été perçu comme la preuve que l'État n'assure plus ses missions premières. Ça a été l'école avant, mais là, on n'en entend pas parler parce que les élites ont leurs enfants dans les bonnes écoles de Paris et que bon, bah, ça va pas ailleurs, c'est pas un problème. Là, je pense que il y a un cap qui a été passé ces derniers mois où une partie beaucoup plus large de l'opinion se dit ça ne fonctionne plus. Alors, ça veut pas dire qu'ils savent comment on en sort, ça veut pas dire que l'offre politique est là aujourd'hui pour leur permettre d'en sortir et de donner une voix qui permette d'en sortir, mais je pense que cette conscience est beaucoup plus forte et que l'un des enjeux pour nous, pour la France de manière générale dans les mois qui viennent, c'est de savoir si on en sort en se tapant dessus ou en faisant s'en tenant à la première partie du banquet.
Ce sera l'enjeu.
Juste pour l'illustrer en deux mots sur le terrain économique, évidemment, je partage tout ça. Si vous étiez américain, je parle aux personnes qui nous écoutent, vous gagneriez 50% de plus.
3300 euros si on avait la productivité américaine.
Médian, salaire médian.
Plutôt que 2200 euros salaire médian. Net
en France. Vous gagneriez 50% de plus parce que vous auriez moins de prélèvements sociaux.
Ben oui.
Vous auriez, alors après, il y a des sujets de couverture maladie.
Vous payez plus cher la santé aussi.
Vous auriez une productivité supérieure, notamment les investissements dans l'IA qui explosent aux États-Unis. Et par ailleurs, on n'a pas réformé notre modèle social. Donc, le déclassement, il est salarial, il est économique, il est réel.
Trois secondes, Laurent Montré, pour le mot de la fin.
Oui, je pense que pas. Je vais ce qui est dans votre race. Je pense que les gens perçoivent qu'il y a de la mauvaise foi. Je veux dire que si moi, aujourd'hui, je vais dans un bureau où il fait 35 degrés, je dis mais non, il fait pas si chaud que ça, etc. Je veux dire que je crée l'électricité instantanément. Et c'est ce qui explique le désaccouplement entre des élites qui vous disent mais non, tout va bien, mal à l'arquise. Et des gens qui vivent les choses dans le concret.
Ça sera le mot de la fin et le mot de la saison. Merci à tous pour votre fidélité aux experts cette année. Je vous ne donne pas rendez-vous à la rentrée puisque c'est Laure Clausier qui prendra la suite. J'ai été ravi et honoré d'animer cette année cette émission exceptionnelle avec, j'espère, beaucoup de pédagogie et beaucoup de lucidité autour des questions économiques. L'année qui s'ouvre va être absolument passionnante avec le débat de la présidentielle. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Bye bye. Tout de suite, c'est BFM Transmission animé par Sandra Grandoin. Bel été à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.